Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le réveil culturel, à la radio ou en podcast. Tous les lundis, c'est l'actualité des livres et aujourd'hui, je reçois Hugues Fontaine pour son beau livre consacré à Arthur Rimbaud, photographe. C'est édité chez Textuel. Corinne Amar à la coordination, Vincent Amar à la réalisation. Ce matin, à la prise de son, Pascal Baudin. Le réveil culturel, c'est parti.
Le réveil culturel. Lundi, livre.
Bonjour Hugues Fontaine.
Bonjour.
Vous êtes photographe et réalisateur. Vous avez beaucoup travaillé sur les voyageurs photographes de la Corne de l'Afrique à la fin du 19e siècle. Vous avez d'ailleurs à cet effet publié un beau livre de photos sur la construction du chemin de fer Djibouti Addis Abeba, un train en Afrique. Ça a été publié chez Chamabooks. Et puis un autre livre consacré au roi Ménélique d'Éthiopie, récemment publié chez Amarna. Et vous avez été le commissaire de l'exposition Rimbaud, photographe, donc, qui s'est tenue l'année dernière au musée Arthur Rimbaud de Charleville-Mézières. Et d'une autre exposition sur le même thème, ou presque, Rimbaud soleillé, c'est une saison en Afrique qui actuellement anime au Carré d'Art jusqu'au 25 avril. Mais ce matin, nous allons parler de votre livre consacré à Rimbaud, photographe. Quand on associe le nom du grand poète à la photo, ce qui s'imprime tout de suite dans notre tête, c'est plutôt la fameuse photo, le seul portrait du poète, l'ange démon de 17 ans, Ignace Rebel, yeux clairs et mélancoliques, montant dédain, bref, très rock, bref, Arthur Rimbaud tel qui nous a été révélé par la photographie d'Étienne Carja prise en 1871. Mais Rimbaud photographe, c'est une autre histoire, une facette méconnue de Rimbaud en Éthiopie, méconnue car non aboutie. Parce qu'aujourd'hui, on a combien de clichés d'Arthur Rimbaud? C'est entre 7 et 10, hein?
Oui, c'est entre 7 et 10. Il y en a 7 bien connus, 6 sont au musée de Charleville-Mézières et 1 à la Bibliothèque nationale de France, qui est son autoportrait dit « aux bras croisés dans un jardin de bananes ». C'est l'expression est de Rimbaud lui-même, puisque ces 3 autoportraits, il les envoie à sa mère et à sa sœur Isabelle le 6 mai 1883. Ce qui est amusant d'ailleurs, c'est qu'il fait une erreur, il dit « je vous envoie deux photos ». En fait, il va en glisser 3 dans son enveloppe. C'est une sorte de lapsus assez curieux.
Oui, il est méconnaissable, on peut le dire. C'est un vieil homme. On a du mal à retrouver le Rimbaud, le Rimbaud qu'on a connu, c'est-à-dire à travers la pose d'Étienne Carja.
Oui, un vieil homme, vous exagérez un peu, il a vieilli, il le dit lui-même. Quand il envoie ses images à sa sœur et à sa mère, il dit « c'est pour vous rappeler ma figure » et vous donner une idée des paysages d'ici. Il écrit, et on sait qu'il faut faire très attention à ce qu'écrit Rimbaud, les mots ont un poids énorme. Il dit « pour vous rappeler », il ne dit pas « pour vous montrer ». Et de fait, on peut se demander comment Isabelle et Vitalie, sa mère, ont pu recevoir ces photos, parce qu'effectivement, son visage, on a du mal à le voir. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est probablement ses premiers essais photographiques, ses 3 autoportraits. Pourquoi pas faire des essais en se photographiant soi-même? Et il maîtrise pas encore très bien le processus, et donc les épreuves sont mal lavées. Il le dit lui-même aussi dans cette lettre. Et donc les nitrates d'argent ne sont pas suffisamment lavés, fixés, et l'image blanchit. Et donc sur ces 3 autoportraits de Rimbaud, ce qui est quand même une chose extraordinaire d'imaginer qu'en 83, il se photographie, eh bien effectivement, son visage, on ne le voit pas, on ne le lit pas, contrairement, comme vous venez de le dire, au fameux portrait de Carja quand il a 17 ans.
Alors ce qu'il nous dit Rimbaud, à travers bien sûr sa correspondance, c'est que dès son premier séjour en Éthiopie, c'est en 1880, il souhaite devenir photographe, hein, parce qu'on est dans une époque où il a vraiment cessé d'écrire, il ne veut plus écrire, il se lance dans d'autres aventures, et parmi ces aventures, il y a la photo qui l'inspire, la photographie.
Absolument. En fait, il tourne le dos à la littérature et ce qui l'intéresse à ce moment-là, ce sont les sciences, les techniques. Verlaine l'a appelé le philomate, celui qui aime les sciences par-dessus tout. Il arrive en août 1880 à Aden. C'est une histoire assez incroyable, hein, parce qu'il cabote sur tous les ports de la mer Rouge et Et en fait, il débarque à Aden, épuisé, sans plus d'argent, malade aussi, semble-t-il. Et il est embauché par Dubar, qui est l'adjoint de Bardet, qui tient une maison de commerce, une maison de café. Et donc, Rimbaud se retrouve à la tête d'un petit harem de femmes indiennes qui trient le café. Mais Aden, c'est un endroit épouvantable, il fait une chaleur terrible. Et il a envie que d'une chose, c'est de passer de l'autre côté du golfe de l'Aden, de l'autre côté de la mer Rouge, et d'aller vers cette Éthiopie qu'on appelle à l'époque l'Abyssinie, et qui est une espèce d'Eldorado, une Suisse africaine. Et il y arrive assez vite, et donc là, il va seconder Blanchard, qui a été laissé par Alfred Bardet, son employeur, à Harar, pour s'occuper d'une factory, d'un comptoir. Et très vite, Blanchard et Rimbaud se disent « il faut faire des photos ». Parce que les gens ici, on les connaît pas, il faut faire des photos pour les envoyer en France. Et il espère que Alfred Bardet va rentrer de Lyon avec un appareil photo. Et Bardet, je crois que la photo ne l'intéresse pas beaucoup, et il ne revient pas avec un appareil photo. Et donc il faudra attendre encore 3 ans avant que Rimbaud devienne photographe.
Et avant qu'il ne demande à se faire expédier un bagage photographique.
Oui, ça c'est une chose aussi vraiment passionnante. Il a voulu se faire envoyer de Lyon un appareil photographique et le matériel, il appelle ça le bagage photographique, le terme est bon, parce qu'en fait on vendait à l'époque des malles ou bien des sacs en toile dans lesquels il y avait tout l'équipement nécessaire pour pouvoir faire de la photo. Alors, premier échec, il envoie l'argent, on ne lui envoie pas l'appareil, et il demande à ce Dubar qu'il avait rencontré en août 80, qui est maintenant à la retraite, à Lyon, de lui rassembler ce matériel et de l'envoyer. Et c'est ce qui va se passer. L'appareil passe même par Maurice, semble-t-il, il y a eu une erreur d'acheminement, mais il arrive intact. Et Rimbaud d'Aden repart en avril, en mars-avril 1883, pour Harar. C'est son second séjour, et cette fois-ci, il emporte avec lui, et il met ça sur les dromadaires, un matériel photographique, son bagage.
Alors, pourquoi? Parce que vous enquêtez sur cette période d'Arthur Rimbaud en Éthiopie, Hugues Fontaine, pour votre ouvrage Arthur Rimbaud, photographe. Vous avez bien sûr sa correspondance qui vous sert de boussole, mais à cette période-là, précisément, pourquoi Arthur Rimbaud veut devenir photographe? Est-ce que, comme il le dit d'ailleurs à sa mère, à sa famille, parce que c'est lucratif et qu'il a besoin de vivre, ou est-ce qu'il a cette idée de s'exprimer, lui qui s'est exprimé avec les mots, avec les vers, de s'exprimer avec la photographie?
Je ne pense pas. Je ne crois pas qu'il y ait une démarche artistique. Ces deux intentions sont l'une, d'ouvrir un studio photographique. Et quand il est arrivé à Aden, il a vu le studio d'Edouard Bidault de Glatignier, un Français, un aristocrate, qui a quitté la Mayenne et qui gagne de l'argent en faisant des portraits photographiques de ceux qui passent ou bien en vendant des photos des gens du coin. Son autre objectif, et là c'est peut-être un autre modèle qu'Edouard Bidault de Glatignier, c'est Georges Révoil, qui est un explorateur, qui va beaucoup travailler en Somalie et qui lui aussi s'est équipé d'un appareil photo.
Pour donc, des projets ethnographiques.
Voilà, son deuxième projet, c'est de faire un livre, qui serait ce qu'on appellerait aujourd'hui un livre ethnographique, effectivement, illustré de cartes et de photos. Les photos seraient représentées sous forme de gravure, puisqu'on n'est pas encore en capacité d'imprimer des photos en 1883. Mais il a ce double objectif. Et je pense pas qu'il y ait un projet artistique. Je crois qu'effectivement, il veut gagner sa vie. Et il a cette idée qu'il pourrait très bien, au Shoah et à Harar, donc en Éthiopie, faire ce travail d'être un rédacteur et de rassembler des cartes et des photos.
Voilà, mais ça peut être une démarche artistique, hein, parce que ce qu'il dit...
Ça l'exclut pas, mais c'est
ce qu'il dit,
projet.
C'est qu'il souhaite photographier des choses curieuses.
Oui, c'est vrai. C'est le terme qu'il utilise. Ce que je veux dire, c'est que il faut vraiment voir que Rimbaud a totalement abandonné l'écriture sous forme littéraire. Il va poursuivre l'écriture. Hein. Il envoie à Bardet le rapport sur l'Ogaden, qui en fait est une mise en forme de notes de son compagnon Sotiro, un grec extraordinaire qui vit avec lui là-bas à Harare. Et plus tard, il écrira la lettre au directeur du Bosphore égyptien qui résume un peu tout son parcours éthiopien. Donc, on passe peut-être de la littérature à la correspondance et à l'écriture objective, scientifique. Et d'autre part, peut-être a-t-il renoncé définitivement à écrire sous forme littéraire, mais a-t-il renoncé à la poésie sous la forme d'une manière d'être au monde, d'une manière de vivre? Rimbaud, c'est la liberté libre. C'est tout faire à toute vitesse, toujours être en avant, toujours fuir vers autre chose, vers l'ailleurs. Et là, curieusement, il va rester 11 années de sa vie entre Aden et Harare. Et je me demande si cette révolte du Rimbaud à 17 ans se poursuit pas par cet autre épisode de sa vie. Rimbaud est autre, mais c'est le même Rimbaud, hein. c'est pas un Rimbaud double, c'est le Rimbaud qui est maintenant en Afrique. Et dans les photos qu'il envoie, il y a ça d'assez extraordinaire, c'est que je vous disais tout à l'heure, pour rappeler ma figure, donc pas pour montrer, hein, pour rappeler ma figure, et vous donner une idée des paysages d'ici. Il veut en fait montrer à sa mère et à sa sœur, ce sont des photographies à usage privé, les lieux où il vit aujourd'hui. À la fin du 19e, c'est le travail essentiel des photographes, on appelle ça des vues et des types, c'est-à-dire des paysages et les gens. Et au fond, Rimbaud fait les deux en une seule photo. Il se montre dans le paysage, et c'est parce qu'il se montre dans le paysage, et c'est à peine un tiers de la composition, que aussi on ne voit pas vraiment son visage. Son propos, c'est pas de refaire la photo de Carja, il est plus du tout dans cette logique-là.
Vous restez avec nous, Luc Fontaine, on parle d'Arthur Rimbaud, photographe ce matin.
Can you lay the bitch? Could you risk it, Rossi? Sit in Askabari. And in a bang, man. Aloe McTee. Grunding ye honch. Wither it, Ethiopia. Minted a big kalish. Fit zum Ethiopia wit Anna ma di mama Wezerit Ethiopia Konjit in a name by Tramech wode fit Wichiba de babai Enika we malen Anchin bekuf we miai
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Et nous sommes en Éthiopie avec Arthur Rimbaud, en compagnie de Luc Fontaine. Vous consacrez tout un livre à cette aventure d'Arthur Rimbaud avec la photo, la tentation de la photo, plutôt, parce que pour aller très vite, ça n'aboutira pas. Hein. Il ne sera pas photographe, Arthur Rimbaud. Très vite, après quelques essais, il va vendre son matériel, d'ailleurs.
Oui, assez vite. En fait, à Harare, à partir du mois de juin, il se met à pleuvoir. Et vraiment, quand il pleut, là-bas, c'est quelque chose. Et deux mots techniques parce que j'ai abordé cette question de Rimbaud, photographe, aussi sous cet angle. Il développait ses tirages à la lumière du soleil. On appelle ça du papier à noircissement direct. Et en fait, quand il pleut, il ne peut plus développer ses tirages. Il l'écrit d'ailleurs à Bardet quand il envoie quelques-unes de ses photos. Il dit « c'est du mauvais travail, je ferai mieux plus tard ». Et en fait, je pense que plus tard, il n'en fait plus des photos. Il arrête probablement très vite. Et sa mère lui demande un nouveau portrait. Et à ce moment-là, il dira j'ai revendu mon appareil photo, mais sans perte. Et c'est une énigme. C'est une des nombreuses.
Ou un relancement. Peut-être que. Oui, c'est un. Peut-être qu'il n'a pas été satisfait de ses premiers clichés.
C'est possible. Un abandon, en tout cas. Oui.
Et on peut le comprendre, hein. Elles sont pas techniquement ou artistiquement marquantes, les photos d'Arthur Rimbaud, Hugues Fontaine.
Pas complètement d'accord. Ouais. Les trois autoportraits sont de mauvaises épreuves. Bien composées, mais malheureusement, mauvais résultats. En revanche, il y a deux autres images qu'on connaît bien. C'est le portrait de Sotiro, qui est un bon portrait. Et puis une autre image, le fabricant de daboula. Les daboula, c'est des sacs de cuir pour le transport du café. On voit un homme assis sur une peau, donc, et dans un atrium, en partie ouvert sur le plein air, en partie fermé sous un plafond. Pour faire une photo comme ça, il faut maîtriser très très bien la pose, c'est-à-dire régler son diaphragme. Il ne faut pas que ce soit trop brûlé dans les hautes lumières, il ne faut pas que ce soit noir dans les ombres. Cette photo-là, elle est techniquement tout à fait maîtrisée. En plus, les colonnes sont parfaitement verticales. Je pense que la photo fait la démonstration que Rimbaud maîtrisait la technique. D'ailleurs, il avait acheté un livre, comme beaucoup d'autres livres.
Il y a un livre pratique, je suppose. Hein.
Oui, c'est ça, un traité de photographie. Oui. Et il se fait envoyer aussi du matériel pour travailler pendant 2 ans. Et il écrit à sa mère très vite, je vais t'envoyer un chèque de 200 francs parce que j'ai déjà plus de plaques de verre. Donc, on peut présumer que pendant cette période mai-juin, il fait énormément de photos. Malheureusement, on n'en a que 7. Alors, où sont-elles ? Difficile de savoir.
Il laisse tomber la photo Arthur Rimbaud parce qu'il n'est pas lui-même convaincu du résultat ou parce qu'il n'arrive pas à avoir une clientèle sur place.
Oui, je crois que vous avez raison. C'est certainement la raison pour laquelle il abandonne. Il s'est trompé. À Aden, il y avait beaucoup de gens qui passaient, donc qui se faisaient photographier ou qui achetaient des photos. À Harare, il a vite fait d'épuiser sa clientèle. Et puis, il passe à autre chose. Rimbaud n'a jamais cessé de passer à autre chose. Et peut-être que la pratique photo est un peu trop contraignante et il revend l'appareil, effectivement. Et donc, il passe à autre chose qui est, en fait, son travail de négociant.
Alors là où il y a il y a débat, Hugues Fontaine, c'est que vous dites que vous avez retrouvé 3 photos qui seraient des photos d'Arthur Rimbaud.
Oui, si, vous avez raison de dire c'est un débat. Je l'ai présenté
parce qu'elles ne sont pas authentifiées. Et comment peut-on authentifier d'ailleurs des clichés d'Arthur Rimbaud ?
C'est une des difficultés et j'ai délibérément présenté ça avec cette prudence quand on a fait l'exposition à Charleville-Mézières. Nous avons fait venir de Vienne ces 3 tirages et nous les avons montrés. Alors vous pouvez imaginer, il y a eu tout de suite un...
Alors que représentent ces 3 tirages et quelle est l'histoire de ces photos ?
Alors, elles représentent 2 personnages. Deux photographies représentent des personnages. Une troisième photographie représente une citadelle. Parmi les personnages, il y a une photo sur laquelle je voudrais un tout petit peu insister. C'est un jeune garçon avec un bouclier, une lance, et qui se fait laver les pieds par un autre enfant plus jeune. Et quand on connaît un peu le coin, on a tôt fait de deviner qu'il s'agit d'un domestique, en fait d'un esclave, et probablement un enfant venu des hautes terres. On est dans cette partie du monde à ce moment-là, en plein dans la traite des esclaves.
Hein. On est où exactement ?
On est donc en Éthiopie, et cette photo-là, elle se trouve dans les monts Tchercher, c'est-à-dire sur les hauts plateaux de l'Éthiopie, entre la capitale Ankober, la capitale du roi Ménélique, et Harare, où Rimbaud travaillait. Un enfant lave les pieds d'un noble, d'un jeune noble. Ça fait un peu penser aux premières poésies de Rimbaud, quand il s'intéresse aux enfants malheureux, les étrennes des orphelins. Bon, Ces photos, comment auraient-elles été faites par Rimbaud? Il se trouve que Rimbaud chemine depuis Encobert vers Arras avec un autre explorateur français, Jules Borély. Et Jules Borély a un appareil photographique. On connaît ses négatifs, ils sont conservés ici à Paris. En fait, moi je suis à Vienne en train de regarder les archives d'un ethnographe, géographe autrichien qui s'appelle Philippe Paulitschke, et je consulte un registre qu'il a donné en même temps qu'une collection de 220 épreuves au musée d'histoire naturelle de Vienne en mars 1892. Je regarde attentivement ce registre et je tombe sur le nom de Rimbaud à trois reprises face à trois légendes. Alors, vous pouvez imaginer ma surprise. Enfin, j'étais pas venu au Weltmuseum de Vienne avec l'idée de chercher des choses autour de Rimbaud. Je venais voir les archives de Philippe Paulitschke. Et donc, je creuse un peu le sujet et je m'aperçois que Philippe Paulitschke, qui est un ethnographe, un anthropologue, un savant, c'est pas quelqu'un qui raconte n'importe quoi, attribue à Arthur Rimbaud ces trois images. Or, il se trouve effectivement...
De manière explicite.
De façon tout à fait explicite.
Ce sont des photos d'Arthur Rimbaud.
Alors, ce qui se
c'est
passe...
C'est ça qui est écrit?
Non,
très
exactement ce qui est écrit. On a un inventaire qui fait une douzaine de pages. Et vous savez, un peu comme les livres de comptabilité du 19e, il y a des petits onglets. C'est-à-dire que quand vous tournez les pages, vous avez toujours un onglet de référence. Et il y a une colonne où c'est marqué « Name des collectors ». Le nom du, et c'est là où le terme importe beaucoup, « collectors », c'est-à-dire celui qui a collecté, celui qui a ramassé. Et donc, tout le début du registre, ce « Name des collectors », le nom du collecteur, est parfaitement approprié puisque ce sont des objets. Et vous tournez les pages et là commence sa collection de 220 épreuves photographiques. Il dit que c'est la plus grande et la plus inédite et la plus extraordinaire collection de photographies sur la Corne de l'Afrique. Donc ce terme « name des collectors », qui était parfaitement adapté pour des objets, il pose problème quand il s'agit de photos. Est-ce que ça veut dire que c'est quelqu'un qui a collectionné, rassemblé des épreuves photographiques, comme on a rassemblé des armes, etc. Ou bien est-ce que ça pourrait vouloir dire que c'est le nom de celui qui a fait la photo? Alors, il se trouve qu'il y a 19 noms de collecteurs d'épreuves photographiques, et moi je travaille sur ces explorateurs photographes depuis une quinzaine d'années. Ils sont tous, à l'exception de deux, des photographes avérés. Donc voilà un premier élément assez étonnant. D'autre part, le nom de Jules Borély existe dans ce répertoire. Ce qui veut dire que si ces photos que je retrouve dans la collection de Borély avaient été faites par Jules Borély, pourquoi Paulitschke aurait-il attribué trois de ces images à Rimbaud? Donc il y a, si vous voulez, dans cette découverte, une partie qui reste très ouverte, c'est de savoir dans quelles conditions exactement Paulitschke a-t-il obtenu ces trois images et pourquoi les a-t-il attribuées
et
à Rimbaud.
Pour vous, Hugues Fontaine, ce sont des photos prises par Arthur Rimbaud?
Moi, je veux bien le croire parce que, de fait, Rimbaud et Borély marchent ensemble une vingtaine de jours pour aller de Encobert à Arras. C'est le moment où Rimbaud a vendu ses armes au roi Ménélique. Il s'est fait un peu rouler. Et Ménélique était un homme, un souverain très malin, lui a dit « Va te faire payer à Arras chez mon cousin Makanen » et il lui donne une traite. Donc Rimbaud part à Arras et Borély profite de l'occasion pour faire le voyage avec Rimbaud. Et on sait parfaitement que Borély a un matériel photo et je retrouve dans la collection de Borély les négatifs en question. L'hypothèse que je fais aujourd'hui, c'est que Arthur Rimbaud chemine avec Borély, qui est équipé d'un matériel photographique, et fait ces trois images.
Ou achète ces trois images parce qu'il aime ces photos. Enfin, c'est ouvert.
C'est ouvert.
Hugues Fontaine.
Oui, c'est ouvert. Et je ne dis rien d'autre que ça. C'est-à-dire, je ne dis pas, ce sont trois photos inédites de Rimbaud. J'explique très précisément les conditions de la découverte de ces trois images et je dirais les raisons pour lesquelles je pense qu'il puisse en être l'auteur.
Le réveil culturel de Toufik Hakem est à retrouver sur franceculture.fr et on peut s'abonner au podcast de l'émission en passant par l'application Radio France.
Arthur Rimbaud, photographe, Duc Fontaine est édité chez Textuel. Et puis l'exposition continue au carré d'art de Nîmes consacré à Rimbaud soleillé. C'est jusqu'au 25 avril. Merci beaucoup, Hugues Fontaine, d'être passé ce matin.